Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Le potentiel de l'Afrique est énorme. Le continent abrite le tiers des réserves minières et énergétiques et plus de la moitié des terres arables encore disponibles sur cette planète. En 2050, sa population représentera un quart de l'humanité avec une moyenne d'âge d'une vingtaine d'années. Et depuis l'an 2000, la croissance économique est une réalité, à deux chiffres même dans certains pays, mais elle ne profite pas encore à toute la population. Et c'est là le grand défi. Comment mettre tout ce potentiel au service des Africains ? Notre invité est économiste. Économiste, philosophe, musicien, éditeur, sénégalais d'origine mais panafricain dans l'âme. Depuis la publication d'Afrotopia en 2016, Félouine Sarr martèle que l'Afrique n'a personne à rattraper, qu'elle doit marcher prestement sur le chemin qu'elle a choisi pour devenir un espace où se réinvente l'humanité en tenant compte des défis écologiques.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Félouine Sarr.
Bonjour.
Nous avons beaucoup entendu parler de vous récemment parce que Emmanuel Macron vous a confié avec Bénédicte Savoie la mission de réaliser un rapport sur les restitutions des dizaines de milliers d'œuvres d'art spoliées par la France aux pays d'Afrique subsaharienne. Ça y est, cette mission sensible est achevée.
Oui, la mission est achevée, le rapport rendu et un ouvrage qu'on édite sur la question qui paraîtra la semaine qui suit.
Alors, à la lecture de vos écrits, j'imagine que cette mission vous tenait à cœur parce que vous fustigez la manière dont les Européens, et notamment la France, ont imposé à l'Afrique un modèle de développement complètement préfabriqué qui ne tenait pas compte, justement, des cultures locales africaines.
Oui, je dirais plutôt qu'il y a cette dimension-là, il y a le fait qu'à l'orée des indépendances, les pays africains étaient censés réinventer leur modèle économique et social. Ils ne l'ont pas fait. La France est partie, les pays ont obtenu une indépendance, je dirais, politique formelle, mais les cadres de gouvernance, l'État-nation et toutes les formes institutionnelles qui produisent toutes les formes de sociabilité sont restées empreintées et marquées par les formes occidentales. Et je dirais que la première génération de leaders africains ont empêché, par manque d'inventivité, par paresse intellectuelle, et elles ont considéré qu'elles avaient juste à répliquer des formes sociétales qui avaient fait leur preuve ailleurs et qu'elles ne devaient pas inventer les leurs. Et ça, je pense que c'est une responsabilité qui leur incombe. Elles n'ont pas fait l'effort de réinventer l'économique, le politique.
Alors c'était de l'incapacité, de la paresse intellectuelle ?
Il y a du tout. Je pense qu'il y avait... Certains ont voulu la Guinée de Sékou Touré. Sékou Touré a dérivé après en dictateur. Mais autour des années 58, il y avait cette vision panafricaine qu'il veut partager avec Kwame Nkrumah du Ghana. Julius Nyerere en Tanzanie a essayé des formes de socialisme africain. Donc il y a eu comme ça quelques leaders africains qui ont tenté des aventures, des ruptures, mais qui n'ont pas été aidés par la puissance coloniale qui a tenté de les déstabiliser et qui ne les a pas laissés faire. Donc c'est une dynamique qui est à l'intersection de dynamiques internes et de dynamiques globales. Je veux dire, la grande difficulté, c'est de ne pas faire porter la responsabilité sur l'une des dimensions au détriment de l'autre. Il y a eu des tentatives internes qui n'ont pas abouti, mais elles n'étaient pas nombreuses. Mais grosso modo, à tous les pays fraîchement décolonisés, on a vendu la promesse du développement économique et social à condition de passer par les mêmes étapes que les nations occidentales, à condition de faire comme elles, et à condition de répliquer les formes sociétales comme si elles étaient des prêtes à porter et qu'on pouvait reproduire les histoires que les sociétés n'avaient pas vécues. C'est ça la grande erreur. Parce que ces formes achevées dans d'autres lieux ont été le résultat de soubresauts historiques, d'une longue maturation et de dynamiques dont on ne savait même pas qu'elles allaient produire ces formes-là. Elles ont été aussi le résultat de stratégies d'essais-erreurs et on ne peut pas faire fi de l'historicité des groupes humains. Et des groupes humains ont cru qu'ils pouvaient faire fi de leur propre historicité.
Mais du coup, la notion de développement avec une vision occidentale, c'est pour vous un mythe pour l'Afrique ?
Non, c'est un mythe. À partir des années 50, déjà la gauche intellectuelle occidentale a critiqué le concept. Des gens comme Candido Mendes, comme Edgar Morin, on l'oublie, comme Cornelius Castoriadis, ont fait des travaux importants en disant qu'en fait, on ne développe que ce que l'on a en soi. On développe ce qui est en potentiel et ce que l'on a comme valeur, comme potentialité. C'est ça qu'on emmène à son terme, c'est ça qu'on fait grandir. On ne se développe pas de l'extérieur, ça n'a pas de sens en fait. Et on ne se développe pas en empruntant des formes qui sont totalement exogènes. C'est de l'enveloppement, ce n'est pas du développement. Et ce terme-là, si on en fait la généalogie, c'est-à-dire que le terme existait dans l'univers de la biologie, les êtres vivants, les organismes vivants se développent. Il existait dans l'univers des sciences et techniques, on développe une photographie, une pellicule, on développe une équation mathématique. Mais c'est un terme qui, dans le champ social, était intransitif. Les choses se développaient, on ne les développait pas. Et quand Truman, en 1949, a fait son discours sur l'état de la nation après la Seconde Guerre mondiale, après les trois points classiques, il cherchait un point qui allait être un peu innovant. Et l'un de ses conseillers lui a dit, on peut proposer d'étendre l'aide technique économique que l'on pourvoit à l'Amérique latine à tous les pays qui sont économically backward, qui sont économiquement arriérés. Et donc c'est là où ils ont songé que dans leur lutte contre le bloc de l'Est pour agglomérer à eux les nations fraîchement décolonisées, il fallait leur proposer l'idée du développement. Donc nous allons vous aider économiquement, mais vous allez faire partie de notre giron. Et plus tard, si vous êtes de bons élèves, ben vous allez accéder à des niveaux sociétaux qui sont les nôtres. Alors, les nations africaines ont accepté une autodénomination. Les gens étaient asiatiques, africains, chinois, indochinois, sénégalais, algériens. Ils ont accepté de se faire appeler pays sous-développés. Ils ont accepté aussi d'entrer dans ce moule pour bénéficier de l'aide publique extérieure, de l'aide technique. Et surtout, le grand problème, ça a été de considérer que toute l'inventivité sociétale qui a toujours existé, parce que les sociétés ont toujours eu des défis à relever, et les sociétés humaines s'emploient à les relever. Mais l'idée de dire qu'il y a une modalité, une seule manière de répondre à des défis, c'est ça le mythe du développement. C'est de faire croire que ces défis-là, éducationnels, économiques, sanitaires, politiques, pour y répondre, il y a une seule formule qui marche pour tout le monde.
Et ça fait 60 ans que ça dure, et c'est vrai que sur plus de 200 pays, il y en a très peu.
Il y en a 13.
Parmi les pays dits sous-développés qui sont sortis du sous-développement.
Sur 200 pays, il y a 13 qui ont quitté les pays à revenus inférieurs et qui sont passés dans les pays à revenus intermédiaires, et il y a 2 qui ont quitté les pays à revenus inférieurs et qui sont passés dans les hauts revenus.
Et combien de pays africains ?
Très peu. Et les dragons asiatiques qui ont bien fait, c'est parce que c'est des sociétés qui ont inculturé, qui ont intégré le progrès technique, mais qui se sont fondées sur des éléments profonds de leur culture, sur une culture du travail, sur une manière de s'organiser, etc., etc., et qui ont su mettre leur culture comme des variables dynamiques pour dynamiser leur société et qui ont su suivre leur chemin. Et c'est les pays les plus indisciplinés, qui n'ont pas suivi les prescriptions de la Banque mondiale, du FMI, etc., à un moment donné, qui s'en sortent le mieux. La Chine, elle a fait ce qu'elle a voulu. On peut la critiquer du point de vue des droits de l'homme et des libertés publiques, c'est vrai. Mais du point de vue de la pauvreté, la Chine a sorti 600 millions d'individus de la pauvreté en moins de 15 ans. C'est le record de l'histoire de l'humanité. Alors, je ne prêche pas pour un économicisme qui ne prendrait pas en compte les autres dimensions de la vie sociétale, les libertés politiques, elles sont fondamentales. Mais lorsqu'on regarde ceux qui ont fait des progrès économiques, c'est ceux qui ont été indisciplinés. C'est ceux qui ont décidé de suivre leur propre voie. Le Botswana a suivi sa révolution agricole. Lorsqu'il avait son programme, la Banque mondiale et le FMI l'avaient totalement déconseillé. Le Botswana avait refusé de suivre les programmes du FMI. Et quelques années après, quand le Botswana a réussi son programme, le FMI est revenu pour conseiller aux autres pays voisins de faire comme le Botswana. Et on en a plein d'exemples de ce genre pour dire que oui, on peut emprunter intelligemment d'autres dynamiques, mais on ne peut pas les répliquer à l'aveuglette et ça ne marche pas. Et c'est là où le développement fonctionne comme une croyance, parce qu'en fait, si on observe à partir des indépendances, la promesse qui a été faite, très peu de pays y ont accédé. Mais puisqu'il y a eu, d'ailleurs, on dit le miracle asiatique. Donc ça veut dire que ça ne relève pas de la normalité, c'est un miracle. Et donc, puisqu'il y a eu quelques-uns qui s'en sont sortis, on les cite comme exemple, et pour alimenter la croyance, en disant en fait, vous n'êtes plus sous-développé, vous êtes en développement. Et dès l'instant qu'on leur dit en développement, vous êtes en processus. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ce développement va arriver, et ça maintient l'illusion qu'en fait, les pays sont en chemin.
Et ça fait donc des décennies que ça dure. Et du coup, vous dites que l'Afrique doit inventer son propre modèle en tirant d'ailleurs des leçons de la crise économique que traversent les pays occidentaux, une crise qui, selon vous, est avant tout morale, philosophique et spirituelle.
Absolument. En fait, le continent doit se concevoir comme un créateur et pas comme un imitateur. Et le continent a tous les atouts pour créer son modèle. Déjà, le premier atout, pour moi, c'est le fait que les formations sociales humaines, historiques, les plus anciennes, sont des formations africaines. Que le fait que l'Afrique soit le berceau de l'humanité, il n'y a aucune gloire à en tirer. Pour moi, ce n'est pas très significatif. Mais ce que ça signifie, ça veut dire que les civilisations humaines les plus anciennes et les plus durables sont africaines. Donc ça veut dire qu'il y a une longue expérience de la vie humaine et de la vie en société. Et que ces sociétés ont connu des hauts, des bas, des acmés, des bases et des sommets, ont connu des régimes d'historicité et ont dans leur mémoire profonde énormément de ressources quant à ce que vivre ensemble signifie. Donc ça veut dire qu'elles ont un capital culturel qui est absolument riche pour articuler, pour produire de l'ingénierie sociétale. Ça, c'est un vrai capital. Pour moi, le second capital, c'est qu'après la saignée des différentes traites humaines à la fin du Moyen-Âge, où le continent représentait 20% du centre de la population du globe, et à la fin du XVIIIe siècle, il était tombé à 9%, comme pendant que la Chine était en train d'être à 18% et l'Europe occidentale à 20%, on a retrouvé une dynamique démographique que l'on avait perdue. Et dans quelques années, la force vive du monde sera africaine. La moitié des jeunes du monde seront africains. Le continent a des ressources, a des terres arables, n'est pas totalement enchâssé dans des modèles de production qui impactent l'environnement, n'est pas totalement enfoncé dans l'industrie du XXe siècle. Donc, le continent a la possibilité de faire différemment, de dire, OK, nous avons vu les avantages de ce modèle, mais nous avons vu aussi ses inconvénients. C'est de prélever trop de ressources dans l'écosystème, de rejeter trop de déchets que l'écosystème ne peut pas absorber. Et c'est un modèle qui n'est pas durable, nous le savons, il n'est pas soutenable. Récemment, il y a eu un rapport du GIEC qui nous prévient, attention, on va être à 2,5 degrés. Si on ne fait pas gaffe, on sera à 3 degrés. Si on ne change pas nos comportements fondamentaux dans 30 ou 40, on sera dans des points d'irréversibilité. Donc on est vraiment en face d'une grande crise écologique et qui n'est pas juste une vue de l'esprit. Et nous avons tous les atouts de fonder des économies vertes ou des économies bleues. Nous avons tous les atouts pour mettre en place des modèles de société qui accordent une place juste à l'économie, qui la mettent au service de la dignité des groupes humains et qui ont un souci beaucoup plus respectueux de l'environnement et qui retrouvent des formes d'écologie première que les sociétés africaines avaient, parce que ce ne sont pas les sociétés africaines qui ont créé la grande dichotomie entre nature et culture. Elles avaient des rapports intelligents avec les existants et le vivant, et puis elles avaient des rapports de fraternité, de parenté, de connivence avec la nature. Et ça, c'est des éléments qui sont profonds dans leur substrat culturel, une articulation intelligente avec le vivant, dont on fait partie et puis avec lequel on négocie. Et ça, c'est encore présent dans les cultures africaines. Et on a toutes ces ressources qui sont là, sauf qu'on est omnibulé par un ordre du discours, par une vision du monde, par un sentiment de ne pas être à la hauteur d'une certaine forme de modernité.
Alors justement, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut repenser la notion de modernité.
Mais fondamentale. En fait, il faut repenser la modernité dans ses impasses. Je veux dire, Habermas, l'école de Francfort, dit que la modernité est un projet inachevé. C'est-à-dire que oui, c'est un projet qui a apporté des libertés individuelles, qui a améliorer le fonctionnement des sociétés humaines, mais à un moment donné, la raison instrumentale s'est retournée contre les sociétés, a servi les groupes humains. Et puis, depuis...
Qu'est-ce que vous appelez la raison instrumentale?
C'est l'homme est maître et possesseur de la nature depuis Descartes, 17e siècle, où l'idée c'est qu'on a servi la nature, on la domine, et on fonde une civilisation sur une vision mécaniciste. C'est-à-dire que même la nature, on l'appelle ressource naturelle, c'est-à-dire qu'on la transforme en une ressource, donc on l'instrumentalise, elle est là pour subvenir à nos besoins, et justement c'est une variable qu'on utilise à nos propres fins.
Au nom du progrès technologique.
Oui, au nom du progrès technologique, mais un progrès qui n'est pas accolé à une finalité sociétale. C'est le problème des ordres. C'est-à-dire qu'on a des ordres du savoir-faire, les sciences nous disent ce qui peut être fait, l'économie, la biologie, la médecine, la technique, mais on a des ordres du droit, et on a aussi des ordres éthiques qui sont des ordres de sens et de finalité. En vue de quoi vivons-nous? Tout ce qui peut être fait ne doit pas être fait. Je ne suis pas sûr que nous devions cloner les êtres humains. On peut le faire aujourd'hui. Est-ce qu'on doit le faire? Et ce n'est pas aux ordres techniques d'apporter une réponse. C'est des ordres qui doivent être assujettis à des finalités justement éthiques, sociétales, que nous aurions choisies. Et nous sommes dans une forme de confusion des ordres. Les ordres inférieurs ont pris le pouvoir.
Ce qui fait qu'on arrive à ce que certains auteurs appellent aujourd'hui une hyper-modernisation. C'est-à-dire que c'est un peu la fin, justement, de cette illusion de la modernité sans fin, avec une croissance sans fin.
De toute manière, dans un monde fini, avec des ressources finies, l'idée d'une croissance infinie est un mythe. Ce n'est pas possible. L'idée de la croissance infinie est rentrée dans notre imaginaire, quoi, à partir de la querelle des anciens et des modernes, où on a voulu, dans le champ des sociétés humaines, replacer une vision de la téléologie et de l'eschatologie chrétienne. C'est-à-dire que l'idée de dire que l'histoire des sociétés humaines pouvait être conçue comme un récit et que la marche du temps était une marche du progrès. Le temps apporte quelque chose de mieux. Dans l'eschatologie chrétienne, la fin du temps, c'est la Jérusalem céleste, c'est la cité de Dieu. Depuis Saint-Augustin, on quittera la cité des hommes pour aller dans un temps éternel de félicité, etc. Donc l'avenir est chargé de progrès. Quand on a voulu traduire cette idée dans le temps profane, cette idée a pris la notion de croissance, de progrès linéaire, alors que dans l'Antiquité, les sociétés étaient dans une vision cyclique de l'histoire. Il y avait des naissances, des acmés, des projets. Tout empire finira par périr. Et la boucle ou la spirale. Mais il n'y avait pas cette idée que les choses iraient toujours. Après les secondes guerres mondiales, après le goulag, après Auschwitz, après les bombes atomiques, on s'est rendu compte que bah, non, la technologie n'apportait pas forcément du progrès et que les temps à venir étaient des temps de surgissement des choses et de leur contraire. Et là, nous sommes rentrés dans un temps sans promesse. C'est-à-dire que la seule promesse que nous avons, c'est celui d'éviter la catastrophe ou d'éviter le grand effondrement. Les temps à venir ne sont plus les temps qui sont chargés.
Et on a une science qui se développe qui s'appelle la collapsologie. On parle de crise de civilisation.
Donc du coup, on est revenu de cette idée de le temps à venir, c'est un temps qui est chargé de mieux-être.
Alors on est revenu d'un point de vue théorique, je comprends bien ce que vous dites, mais les Africains aspirent aussi à cette abondance matérielle qui symbolise la réussite. C'est quoi selon vous être riche en Afrique? C'est posséder des femmes, des terres, des montres?
Ils ont raison d'aspirer à un confort matériel. Ils ont
raison. Tout le monde veut le dernier téléphone.
Non, ça, pour moi, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème qui est lié à une crise de civilisation et de représentation et d'imaginaire. Parce que ce téléphone-là, quelle est son utilité fondamentale? À quel coût? Je ne parle même pas du prix,
quoi. Le coût de cycle de vie.
Voilà, à quel coût le cycle de vie.
Les matières pour le composer,
voilà, exactement.
Etc.
Donc, toutes ces questions doivent entrer dans notre réflexion. Et c'est là où, justement, on ne doit pas s'empêcher de réfléchir. C'est-à-dire que les sociétés africaines aient des aspirations légitimes à avoir accès à de l'énergie propre, à du bien-être, à être soigné, à être bien nourri, à une vie décente, c'est absolument normal. Mais ces désirs-là peuvent voir leur réponse inscrite dans des modèles de société, dans des modèles économiques, dans des modèles écologiques, dans des modèles beaucoup plus responsables, dans des modèles qui ne se fondent pas sur de la surconsommation. Et c'est là où j'appelle à une réflexion responsable et sérieuse, c'est-à-dire à sortir d'un mimétisme stérile et faire droit à des aspirations qui sont légitimes, mais se poser la question de comment y répondre de manière beaucoup plus responsable, de manière beaucoup plus intelligente et de manière beaucoup plus durable. Et cette réflexion-là, nous devons la mener. Et là où, pour moi, c'est absolument fondamental, c'est que lorsqu'on dit que dans quelques années, en 2050, l'Afrique aura 2,2 milliards d'individus et qu'en 2100, elle aura 4 milliards d'individus, elle sera la moitié du globe, et que sa jeunesse sera la moitié du globe, ça veut dire que si nous n'avons pas un comportement écologiquement responsable, nous mettons en danger. Et ça ne veut pas dire simplement on sera beaucoup plus nombreux, non. Ça veut dire que les choix de société que nous ferons, les choix de civilisation que nous ferons, auront un impact beaucoup plus important. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes ceux qui contribuons le moins aux gaz à effet de serre.
Oui, environ 4%.
Moins de 4% des émissions. Un pays comme la France contribue à 1%, rien que la France. Nous sommes ceux qui subissons le plus les effets du changement climatique. Donc ça veut dire que nous devons avoir une conscience écologique beaucoup plus aiguë de ces deux points de vue-là. Nous devons faire face à cette réalité.
Et ne pas être plutôt dans la réflexion en disant « eux ont eu droit à une part du gâteau, nous aussi ».
À quel prix? Ils ont eu droit à une part du gâteau en impactant, en ayant une empreinte écologique extrêmement désastreuse. Nous ne sommes pas obligés d'être aussi irresponsables. Et on peut avoir une part du gâteau, c'est ça la vraie réflexion. C'est que les sciences humaines, l'économie, il y a énormément de travaux qui nous montrent que l'on peut répondre aux besoins des sociétés humaines en étant écologiquement responsable.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
On voit bien que nos progrès techniques ont amené un problème grave dont vont particulièrement souffrir sûrement les pays du Sud, mais les pays du Nord aussi. Mais tous les pays actuellement ont des difficultés énormes à mettre en œuvre les techniques qui permettraient d'éviter les catastrophes. Et c'est une des grosses difficultés de notre espèce, c'est que justement, du fait de ce progrès, elle se croit tout permis, elle croit que tout est possible. Or, je pense qu'il faudra bien qu'on apprenne à se fixer des limites.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes avec l'économiste sénégalais Félouine Sarr, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Il y a quelques semaines, RFI a remis le prix de sa troisième édition du RFI Challenge App, qui récompense des Africains francophones qui innovent dans le domaine des nouvelles technologies. À cette occasion, nous avons enregistré une émission en public à l'Institut français de Cotonou au Bénin avec les lauréats. Je vous propose d'écouter les propos d'Edem Almeida. Il était partenaire du prix avec son entreprise togolaise Africa Global Recycling.
Chacun des mots de notre quotidien ou de notre continent est une opportunité de développement. Et ils l'ont très bien compris. Ils ont très bien su le transmettre. Et d'ailleurs, notre ami du Cameroun, je me retrouve un peu en toute humilité dans son histoire parce qu'il est passionnant. Un entrepreneur doit être passionnant. Il est passionné. Il raconte une vraie histoire, il découvre des choses à l'étranger et il sait Surtout, et ce qui m'a plu dans son discours, c'est l'adaptabilité des solutions. Et ça, c'est ce qui manque. Et c'est aussi la preuve qu'on peut partir de zéro contre, je dirais, les préjugés ou autres d'ordre familial ou les freins, où on vous dit ne rentrez surtout pas parce qu'il n'y a rien à faire en Afrique. Ben, c'est faux. Il a su le démontrer et on le soutient pour ça.
En fait, Louis de Sarre, le public était essentiellement composé de collégiens, d'étudiants, de lycéens. Vous avez entendu leur enthousiasme quand Edelm d'Almeida leur dit qu'ils ont un destin. C'est ça qu'il faut promettre et expliquer à la jeunesse. Il y a un avenir à construire sur le continent.
Absolument. En fait, c'est peut-être l'un des grands défis que nous avons. Nous avons une jeunesse qui ne croit plus au fait que dans ces lieux de vie, qu'elle puisse s'élever vers le ciel. Elle est tellement victime d'un ordre du discours qui ne met le doigt que sur ses déficits, ses handicaps et ses manques. Et une partie importante de cette jeunesse a fini par se voir à travers ce prisme.
Vous le voyez, par exemple, parmi vos étudiants ?
C'est ce qui m'a amené à écrire Afrotopia. C'est ce constat-là qui m'a amené à me dire, d'accord, en fait, peut-être que le travail est d'abord dans l'espace psychologique, dans l'espace de la reconstruction de l'estime de soi, dans l'espace de la reconstruction de ses infrastructures psychiques. Il ne s'agit pas de nier ces défis. Et ces difficultés, on en a. On a des défis importants que nous devons relever. Il faut qu'on les regarde en face et que l'on y travaille. Mais il s'agit de ne pas réduire notre réalité à cette dimension-là et à faire l'impasse sur l'autre côté de la pièce, l'autre face, qui sont les énormes potentialités qui existent dans le continent de plusieurs points de vue. Et là aussi, c'est absolument important que si vous avez des défis importants à relever et que vous êtes convaincu que vous êtes incapable de le faire, mais vous n'allez jamais les relever. Il y a énormément de jeunes qui ont énormément de créativité, qui sont capables de produire des innovations technologiques. Et ce que j'ai entendu dans le discours, c'est que fondamentalement, le continent offre l'opportunité de produire énormément de solutions à des problématiques qui se posent. Accès à l'eau, accès à l'énergie, il y a énormément de problématiques.
On parle beaucoup des start-up, des nouvelles technologies, presque un peu trop.
Oui, des fois, il y a un peu d'emphase. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'électricité, ben, vous ne rechargez pas le téléphone portable qui vous permet de faire du e-banking ou qui vous permet de faire une consultation à distance.
Il y a d'autres choses à inventer qu'uniquement dans le domaine des nouvelles technologies.
Oui, et puis il y a un imaginaire aussi de la technologie qui est aussi un imaginaire du rattrapage. Il y a eu un complexe d'une Afrique qui ne serait pas assez scientifique, qui serait trop culturelle, qui serait trop sensible. Et donc, du coup, il y a l'effet inverse. Il y a ce désir de dire que nous aussi, nous sommes technologiques.
Donc, comment redonner confiance à cette jeunesse, Foucault ? Rappeler la richesse de leur continent, 30 millions de kilomètres carrés, 54 États.
À mon avis, c'est important. C'est important aussi de rappeler l'histoire. Les individus s'inscrivent dans une histoire longue, comprennent à quel cycle historique ils appartiennent, les sociétés qui les ont produites, d'où est-ce qu'elles viennent, quelles ont été leurs différents cycles historiques, donc pour ramener le présent à sa juste place.
Mais l'histoire que les jeunes connaissent le mieux, c'est l'histoire de la traite négrière, l'histoire de la colonisation.
C'est intéressant de replacer ces histoires-là dans un temps long, dans une histoire beaucoup plus longue, pour que les gens se rendent compte que c'était des épisodes et des parenthèses, et que notre histoire ne commence pas là, et que notre histoire ne se résume pas à celle-là. Et même dans cette histoire, la rendre beaucoup plus complexe et sortir du statut de l'éternelle victime, bien sûr. Il y a eu de l'impérialisme, il y a eu extra, mais les dynamiques étaient beaucoup plus complexes à l'intérieur. Et les sociétés ne se sont pas laissées faire. Elles ont résisté, elles se sont accommodées, extra.
Oui, mais vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a eu un impact quand même économique énorme sur le développement du continent à cause de ces faits historiques.
Oui, mais c'est ça la grande difficulté. C'est qu'en même temps que vous les rappelez, l'impact économique, ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut une juste historiographie, et ça c'est absolument important. En même temps aussi, le Japon a eu deux bombes atomiques en 1945 sur la tête. Il a pu reconstruire son économie, il a pu reconstruire son pays. Et alors, d'autres espaces ont eu à faire face à des défis historiques. D'autres espaces ont été colonisés et ont su rebondir. Donc, à mon avis, ce qui est aussi important de dire, c'est que les capacités de résilience existent. Elles sont importantes et qu'à partir du moment, une fois qu'on a fait le point sur l'histoire, à mon avis, la seule leçon d'en tirer, c'est quels sont les processus que je mets pour être émancipé et comment je fais de la liberté une passion fondamentale si j'étais privé de ma liberté. Et à mon avis, c'est ça le plus important. Il faut un juste travail historique, mais à partir de ce juste travail historique, la question qui pour moi est importante, c'est à partir de quel sol on envisage un nouvel élan ? Comment je construis ?
Oui, mais justement, gagner sa liberté, s'émanciper quand on a un système économique sur le continent qui repose principalement sur des industries extractives qui ne profitent pas aux populations.
rien n'oblige nos présidents, je suis désolé, ou nos opérateurs économiques, ou nos gouvernements, de mettre en place ces systèmes économiques. Je suis désolé. Quand des entrepreneurs arrivent avec des promesses faramineuses en disant « je vais exploiter telle mine », vous pouvez leur dire « non, ça ne nous intéresse pas ».
Ce n'est pas ce qui se passe.
Oui, mais c'est ça le problème. Et justement, c'est ça. En fait, ce que je dis, c'est qu'ils ont leur part de responsabilité dans les choix économiques qui sont les nôtres. Ils ne sont pas totalement démunis d'un espace de décision et de choix.
Donc vous dites à la jeunesse, réveillez-vous. Par exemple, les Burkinabés en 2014...
Ils ont viré Monsanto.
On virait Monsanto et on virait Blaise Compaoré.
On virait Monsanto, on virait Blaise Compaoré. On met les questions écologiques dans la Constitution. On met le droit d'accès à l'eau dans la Constitution. Bah, il leur faut maintenant un gouvernement qui met en œuvre ces grandes avancées. Et c'est ça l'idée. On a un problème d'imaginaire politique. On a une classe politique qui est en retard par rapport aux aspirations des sociétés et qui souvent... On a le continent le plus jeune, on a la classe politique la plus vieille du monde, déjà. Ça, c'est un vrai problème. Mais sur tout un tas d'opportunités, de choix et de décisions, il y a les espaces que les Africains ont abdiqués, sur lesquels ils ont la possibilité de choisir. Et ils ne font pas les bons choix. Et s'ils ne les font pas, bah, ils sont responsables de ces choix-là. Et peut-être que nous devons travailler pour que des fonds de nos sociétés, on produise une qualité de leadership qui s'engage sur ces ruptures que nous pensons importantes et fondamentales. Et c'est pour ça que je pense que le travail de l'académie, des artistes, des sociétés civiles, pour mettre nos dirigeants dans une relation de créance, c'est-à-dire les enjoindre de nous démontrer que les choix qu'ils font sont les meilleurs choix pour nous, d'informer le corps social, d'apporter une plus-value sur toutes les questions économiques, écologiques doivent être des questions de société, on doit ramener de la plus-value, informer, débattre, dire non, il y a des exemples différents de ce que les gens font ici, allons voir en Europe du Nord, dans les pays nordiques, les hydrocarbures, les énergies fossiles, on doit les enjamber, etc., etc. Je veux dire, toutes ces questions-là doivent devenir des questions sociétales qui informent le débat public dans nos pays et qui font qu'on arrive à des choix beaucoup plus intelligents.
Alors, qu'est-ce qui pourrait déclencher ce réveil?
Ça, c'est une grande question. Je pense qu'en fait, chacun fait son travail dans son espace et peut-être que c'est ça la grande difficulté de l'activisme sociétal. C'est vrai que les sociétés ont leur temporalité et les processus de changement sociétaux ont leur temporalité. C'est-à-dire, si vous observez une société, vous dites « Ok, moi ce qui m'intéresse c'est le changement social, je veux me battre pour plus d'égalité homme-femme ou je veux me battre pour des modes de consommation beaucoup plus écologiques ou je veux me battre pour une démocratie beaucoup plus participative. » Ben, vous investissez de l'énergie dans ce sens-là, dans un système qui est un système dynamique, ouvert et complexe. Et à ce que Edgar Morin appelle l'écologie de l'action, votre action à vous, ben, elle rentre dans le système, elle l'informe, mais elle va être en interaction avec d'autres types d'actions. Et ce que le système va faire va être une résultante de ces interactions-là que vous ne maîtrisez pas. Donc vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est mettre de l'énergie dans le sens que vous pensez être le meilleur pour la société. Mais le moment où il y aura la réaction en chaîne, c'est un moment que vous ne décidez pas. Vous pouvez en être témoin, mais vous pouvez ne pas du tout en être témoin et que le corps social prenne le temps de la maturation d'un processus. Et c'est peut-être ça la grande difficulté. Il y a des changements sociaux, il y a des accélérations qui arrivent, mais lorsqu'on les observe, les dynamiques sont déjà plus anciennes et puis elles sont arrivées à maturité. Et c'est peut-être ça que les activistes doivent faire, c'est se rendre compte que tiens, nous devons changer de modèle économique, de modèle de consommation économique. Ben écoute, on travaille dessus, on travaille à construire d'un point de vue théorique d'autres modèles, on travaille à travailler sur l'imaginaire du modèle économique.
Alors on parle beaucoup, vous parlez beaucoup des modèles, construire de nouveaux modèles, etc. Bon, pour que ce soit concret pour les auditeurs, vous décrivez dans vos différents écrits le fait qu'il faut vraiment partir du contexte culturel africain pour construire ces nouveaux modèles économiques et surtout s'émanciper des autres civilisations et des autres modèles. Et vous citez l'exemple des mourides au Sénégal.
C'est un exemple intéressant parce que voici des gens qui ont fondé une économie matérielle sur une économie relationnelle. En fait, ce qu'on oublie, c'est que l'économie n'est pas naturelle. L'économie est une anthropologie et l'économie est d'abord un fait social, un groupe humain dans un lieu, une géographie, a des ressources, a des contraintes, a des besoins. Avec ça, il essaie de trouver un modèle qui fonctionne. Et toute l'anthropologie économique nous montre que en Tasmanie, quand il y a des sociétés de l'abondance ou des sociétés du don et du contre-don, c'est parce que ça répond à un contexte. Ça répond à une écologie des ressources. Ça répond à une géographie. Et à l'intérieur de ça, les groupes humains ben, sont intelligents. Essayent de trouver les modes de production, de répartition de la plus-value, les modes d'échange qui sont adéquats à leur système. Et que l'économie néolibérale capitaliste est un fait social. Les groupes humains ont répondu à leurs besoins économiques durant des millénaires sans cette forme-là. Et cette forme, elle est apparue à un moment donné.
Ça ne fait que 150 ans, finalement.
Voilà, ça ne fait que 150 ans sur la grande histoire de l'humanité. Et cette forme-là, arriver au cœur de ces contradictions internes disparaîtra. Et que donc, du coup, ce n'est pas une parole d'évangile. Et ce modèle essaie de nous faire croire qu'il est le seul, issu d'une longue évolution, et que c'est le dernier jour, quoi, le jour où Dieu se repose, le dimanche éternel, et rien ne se passera plus. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, beaucoup d'économistes très sérieux ont commencé à travailler à l'économie post-capitaliste, ont commencé à se poser des actions de savoir, ben, si on n'a plus de système financier, comment on fait ? Comment on fait circuler des échanges ? Qu'est-ce qui va prendre la relève ? Si on n'a plus de banque, comment ça va marcher ? Etc., etc. Donc, il faut, du point de vue des chercheurs, il faut cette réflexion prospective. Mais peut-être qu'il faut aussi redescendre du point de vue des sociétés et se rendre compte que les individus sont les experts de leur propre vie. Les sociétés humaines sont très créatives et elles n'attendent pas les théoriciens pour trouver des solutions au jour le jour, pour essayer des stratégies et sélectionner celles qui fonctionnent. Et on a une économie en Afrique qu'on appelle l'économie informelle, qui nourrit plus de 60% des Africains, qui a une vision intégrative des fonctions d'allocation et de redistribution, mais en même temps, qui est hyper formalisée, sauf qu'elle n'est pas formalisée sur les mêmes codes et sur la même axiologie que l'économie classique.
C'est presque une insulte de l'appeler l'économie informelle.
Oui, parce que justement, on la réfère en négatif par rapport à une économie qui serait, elle, la bonne économie, l'économie formelle. Et au lieu de voir que c'est une économie populaire fondée sur une socioculture et qui a ses codes et qui est formalisée sur la parole donnée, sur la confiance, sur la fiducia, sur un certain nombre de choses, sur le capital social et symbolique, et qui justement produit des résultats intéressants, qui a des limites et des faiblesses, bien sûr, qu'il faut regarder en face, mais qui a dans d'autres domaines des résultats absolument importants. Au lieu de regarder comment ces résultats, on les améliore, comment on les comprend, comment on leur fait changer d'échelle, etc., etc., puisque ça fonctionne sur des ressorts qui sont profondément là, non, on essaie de la formaliser.
Alors c'est qui on ?
Les gouvernements, les thuriféraires du système économique, tous les prescripteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie, c'est pas juste un individu, c'est un système industriel, c'est la Banque mondiale et le FMI, c'est des ouvrages d'économie néolibérale, c'est des discursivités hétérogènes qui nous gouvernent, des slogans, des visions du monde, etc., etc. Et c'est tout ça qui installe un système.
Le rôle des médias aussi.
Oui, qui s'émine dans le corps social, un certain nombre de pratiques, une vision du monde. Il y a eu quand même un travail systématique ces 20 dernières années pour ne laisser la place qu'à cette vision économique-là et en faire la vision économique.
Et donc il faut relancer l'imaginaire.
Oui, la grande difficulté, c'est que c'est un travail à plusieurs niveaux. Il y a un travail épistémologique et théorique dans les laboratoires de recherche, etc., etc. Il y a un travail dans les imaginaires. Et je pense que déjà ce travail-là, il se fait. Il y a des individus qui essayent des économies sociales et solidaires, qui essayent d'autres modèles d'échange, qui essayent des alternatives dans leur coin, qui veulent consommer différemment, qui veulent de la décroissance, qui veulent de la déconsommation, etc., etc.
Oui, on voit des circuits courts en agriculture qui sont en train de se développer.
Sauf qu'ils sont chacun atomisés dans leur coin et ils n'ont pas le sentiment de faire un système.
Donc il faut se fédérer aussi.
Oui, puisque justement, le fait de leur atomisation ne leur donne pas l'exact mesure du mouvement de fond que c'est. Et le problème, c'est que le système en place dit quel est le système alternatif que vous proposez et montrez-nous un système global qui remplace celui-ci. Alors que non, il n'est pas né global. Il a progressé et s'est mis et grandi. Et c'est ça l'idée. Et qu'il n'est même pas sûr qu'il faille remplacer ce système global ou total par un système total. Je ne suis même pas sûr que c'est ça la réponse et que la quête, c'est de dire il faut trouver un système aussi total que celui-ci pour mettre à la place. Non. Peut-être que c'est la localité, peut-être que c'est justement des expériences plurielles, multiples, mais qui s'intègrent dans des contextes et qui font sens dans des contextes, qui sont les vraies alternatives.
Et finalement, c'est ce que certains, qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs, essayent de faire en Occident, c'est-à-dire relancer la consommation locale pour être au plus proche des défis que nous impose justement l'environnement.
Oui, en fait, la pluralité des réponses, ça c'est absolument mon fondamental. Considérer qu'en fait, une réponse s'inscrit dans un lieu et dans un contexte, et que dans un contexte, on peut trouver des réponses intelligentes. Celles-ci peuvent être dupliquées ou pas.
Donc pour être créatif, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut partir de son quotidien.
Oui, lorsque j'observe la manière dont les économies dites informelles fonctionnent, il y a énormément de ressources créatives et des choses qui sont inspirantes sur lesquelles on peut construire. Mais à condition de les regarder avec respect et estime, à condition de ne pas considérer que c'est des formes qui sont embryonnaires et qu'il faut rapidement formaliser, industrialiser, capitaliser et les mettre dans un moule qui est censé être le moule qui est dominant. Et je pense que là, on est vraiment à la croisée d'une problématique qui est une problématique économique et sociale et d'une problématique qui est liée à des ordres du savoir et à des ordres qui ont la crédibilité d'être le discours scientifique crédible et celui que l'on doit mettre en place. Il y a un travail à faire là-dessus, sur l'idée qu'il y a une pluralité d'archives, il y a une pluralité de ressources cognitives. Et que, oui, il y a eu une archive sur laquelle on s'est fondé ces 5 derniers siècles. Elle a beaucoup apporté, mais que peut-être qu'elle s'épuise et qu'elle ne peut pas apporter toutes les réponses. Et que le monde est beaucoup plus riche en potentialités et en possibilités d'archives cognitives. Et que si nous voulons répondre à la multiplicité des défis qui s'offrent à nous, il faut que nous ouvrions la possibilité de nous ancrer sur des archives différentes. Et c'est ce que nous avons du mal à faire. Parce qu'un savoir, une épistémologie, soutient un ordre politique, culturel et social. Mais il fait mieux que ça. Un savoir régule notre compréhension du monde. Un savoir nous montre un monde parmi les mondes en potentialité. Et quand il régule notre compréhension du monde, il régule nos subjectivités. Quand on a une pluralité d'épistémologie, on voit la pluralité des mondes qui existent. On voit la pluralité des possibilités qui existent en termes économiques, sociaux, politiques et culturels. Et du coup, on a un monde qui devient d'un coup beaucoup plus riche. Il est beaucoup plus riche, mais nous ne voyons pas cette richesse-là ou nous ne lui faisons pas droit. Nous ne lui accordons pas le crédit que nous devions parce que justement, nous sommes pris dans un ordre hégémonique, dominant, qui prétend avoir la solution pour tout et être la seule solution.
Pour résumer, je dirais, il faut ouvrir la fenêtre.
Ah, mais même, il faut l'ouvrir grande. Il faut l'ouvrir grande et se rendre compte que oui, il y a une pluralité de solutions qui existent, de savoir-faire. Et le répertoire dans lequel on peut aller puiser, il est éminemment vaste.
Même s'il n'est qu'une petite mare de brousse, chacun d'entre nous peut essayer de maintenir pure et paisible l'eau de son âme. Afin que le soleil puisse s'y mirer,
Namarovo kojoa, sere sere ya wokemia, yakoto na kuangalia, akuna haja ya kuwa, namarovo kojoa, sere sere ya wokemia, yakoto na kuangalia, jeuna sikia, wimbova, mayo ayu, sahere, ozikie, sauti bila, maneno inayokukumbusha, ulikotoka, huone. Mama isha ni kama maji ya mferejini, mferejini ye, mferejini, Adamu we. N'entends-tu pas le chant évident de l'hirondelle, Adama Ninge? N'entends-tu point cette voix sans mots qui te rappelle d'où tu viens, Adamu Ndele? Par la vie, cette eau qui de jadis, oui, c'est l'eau, Adam Mouindoué. Et dire que tu serais le couronnement de l'univers, car le souffle du vent,
souffle du vent,
et le souffle divin,
souffle divin,
sans le souffle du vent,
souffle du vent,
souffle du vent,
souffle du vent,
oui, le souffle du vent,
souffle du vent,
et le souffle divin.
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI et vous avez bien raison, nous sommes en compagnie de l'économiste sénégalais Felwine Sarr qui plaide à travers ses écrits et ses conférences pour que les Africains prennent en main leur destin et démontrent au monde qu'un autre modèle économique est possible. En attendant la dégradation de l'environnement, les sécheresses et les conflits entraînent l'insécurité sur le continent, comme le démontre Monique Barbu, la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.
Le Nigeria, en 1960, c'était un pays, certes pauvre, mais qui vivait de son agriculture. L'agriculture du Nigeria, elle était dans le nord du Nigeria. Et à l'époque, le Nigeria non seulement nourrissait toute sa population, mais était exportateur net alimentaire dans le monde. Ce qui s'est passé, c'est que fin des années 60, on a trouvé du pétrole au Nigeria. Le pétrole, on l'a trouvé dans le sud. Et au Nigeria, beaucoup de gens ont considéré que ça y est, la richesse allait être là, que c'était plus la peine de tant s'intéresser à ces zones rurales du nord, puisque le développement au sud allait permettre la prospérité de tout le pays. Et donc, entre 1970 et aujourd'hui, il y a eu des énormes périodes de sécheresse, en plus dans le nord du Nigeria, et la situation matérielle de ces 90 millions d'habitants du nord du Nigeria s'est fortement dégradé. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont commencé à perdre leurs terres? Ils ont commencé à migrer vers l'est. L'est, c'est le lac Tchad, qui est, je le rappelle, partagé par quatre pays, qui sont le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Ils ont migré vers l'est parce que les terres étaient plus fertiles, puisqu'il y avait de l'eau. Mais il faut voir aussi que, par ailleurs, pour des tas de raisons, le lac Tchad, qui était d'une superficie de 24 000 km² dans les années 60, est aujourd'hui passé à 1 800 km². Et que la population autour du lac Tchad est passée de 22 millions à 37 millions dans le même temps. Donc il y a eu des conflits ethniques, des conflits d'usage de la terre. Il n'a pas fallu grand-chose, si vous voulez, pour que certains groupes puissent alimenter les rancœurs qui se sont créées pour créer la situation explosive que nous avons autour du lac Tchad aujourd'hui. Mais encore une fois, je ne dis pas que c'est la seule raison, mais c'est certainement une des raisons majeures.
Félouine Sarr, comment est-ce que vous réagissez à ces propos de Monique Barbu ?
En fait, ce que j'entendais déjà, c'est que le Nigeria a vécu ce que les économistes savent très bien, qui s'appelle le syndrome hollandais. C'est-à-dire qu'on a une économie diversifiée qui se fonde sur de l'agriculture, sur de l'artisanat, sur de l'industrie. Les hydrocarbures arrivent. On abandonne la diversification et le travail qu'on fait dans ces secteurs-là. Et tout se concentre dans le secteur des énergies fossiles.
La fameuse malédiction du pétrole.
La malédiction du pétrole ou le syndrome hollandais. Les économies deviennent des économies de rente. Le budget de l'État dépend des recettes du pétrole. Quand le cours du baril chute, l'État, qui est devenu dispendieux puisqu'il a vu subitement ses recettes augmenter, se voit en difficulté. Et la main-d'œuvre des autres secteurs migre vers ce secteur-là. Au Tchad, on a vu des instituteurs abandonner leur classe pour aller travailler dans des chantiers pétroliers puisqu'on gagnait beaucoup, beaucoup plus d'argent et donc impacter négativement l'investissement à long terme qu'est l'éducation. En plus, quand cette manne-là n'est pas gérée par un fonds d'investissement qui lisse les flux et qui l'investit dans une plus grande diversification de l'économie ou pour amortir des chocs qui vont arriver, on a des situations absolument désastreuses. Et on se retrouve dans des situations effectivement où quand une population ne peut pas se nourrir, quand elle est vulnérabilisée, avec tous les autres chocs qu'ils subissent, climatiques, culturels, politiques, etc. Donc on a des zones de tension et des tensions qui naissent. Et ce que je trouve intéressant dans son analyse, c'est qu'elle montre qu'en fait, qu'il y a une plurivariabilité. C'est, parce que généralement, on a tendance à vouloir expliquer les choses d'un seul tenant, ou bien à mettre l'accent sur une variable. Souvent, c'est une dynamique, c'est une conjonction de choses qui se mettent en place et qui aboutissent à un résultat. Mais ce qui risque de nous arriver, c'est que là, on est très inquiété par les réfugiés économiques ou les réfugiés qui sont issus de zones de conflit, mais les réfugiés climatiques vont arriver. Et les tendances pour les réfugiés climatiques sont énormes. C'est-à-dire qu'on parle de millions d'individus. Là, il y a des centaines de milliers d'individus qui frappent aux portes de l'Europe et ça pose un problème apparemment insoluble. Ben, lorsqu'il y aura des millions d'individus qui vont être obligés, parce que comme autour du lac Tchad, de quitter des lieux qui ne sont plus des lieux vivables et qui devront aller accroître la pression sur des zones qui sont des zones qui ont des ressources ou qui lui permettent de vivre, la problématique, elle changera d'échelle.
C'est pour cela qu'il faut que les personnes restent dans leur pays. Mais comment faire pour les inciter? Vous l'avez dit, il faut réinventer des modèles. Mais pour vous, quelle est l'urgence? Quelles seraient les... Si on vous donnait une baguette magique, on vous accroche au-dessus du continent et on dit vous pouvez faire 3 vœux.
C'est une question extrêmement difficile. C'est qu'en même temps, il faut travailler sur les imaginaires du fait de ne pas estimer que le seul Orient qui leur est promis, c'est un Orient qui est ailleurs et qui n'a rien à faire ici. En même temps, si vous ne leur offrez pas des opportunités concrètes de se réaliser sur place, ben, les gens partent. C'est absolument normal. Une jeunesse qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de travail, qui n'a pas de perspective dans son lieu et de manière concrète, ce n'est pas juste une vue de l'esprit, ben, elle va aller ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y a une pluri-responsabilité. En même temps qu'on déconstruit les imaginaires de l'ailleurs comme étant la seule possibilité de se réaliser, en même temps, il faut que sur place, les gens voient qu'il y a des possibilités qui peuvent réellement répondre à leurs aspirations. Donc ça veut dire que les gouvernements investissent dans l'éducation, dans l'emploi, mettent en place des opportunités. Il y a en économie ce qu'on appelle l'effet tunnel. Vous êtes dans un tunnel, il y a deux fils. Les deux fils sont bloqués, vous ne voyez pas ce qu'il y a au bout. Quand la file de droite se débloque et qu'elle part, vous avez le sentiment que votre file va se débloquer. Vous attendez. Si elle ne se débloque pas, vous considérez que rien ne se passera. Donc les effets tunnels, c'est de mettre en place dans les sociétés des programmes qui marchent, des opportunités qui montrent leurs effets et que les individus sachent que oui, il est possible de peut-être pas demain, mais si j'investis du temps, de l'énergie, du travail, je peux me réaliser. Et ça, nos gouvernants sont absolument responsables en faisant ce travail-là et en indiquant que dans des espaces, il est possible, avec du travail, de l'ardeur, de l'investissement, de s'en sortir.
Est-ce que vous avez l'oreille de certains d'entre eux ?
Les politiques sont très très spéciaux, c'est-à-dire qu'ils font semblant de vous écouter quand votre discours rentre dans leur rationalité. Là, ils peuvent vous faire semblant que vous avez mais après vous vous rendez compte en fait dans les décisions qu'ils prennent, c'est que dès que la rationalité politique arrive, elle efface tout le reste. Ce que j'ai appris en discutant avec certains d'entre eux, c'est qu'en fait, ils avaient la possibilité d'avoir la meilleure information. C'est les individus les mieux informés qui soient. Ne croyez pas qu'en fait qu'ils ne savent pas, ils savent en fait. Et s'ils veulent savoir, ils peuvent. Ils savent, non, en plus ils peuvent. Ils ont la possibilité de discuter avec tout le monde, avec tous les gens dans tous les domaines, avec toutes les expertises. Mais leur grand problème, c'est qu'ils ont une rationalité complexe dans laquelle la variable de la rationalité politique ou politicienne prend le dessus sur les autres formes de rationalité. Et le travail qu'on doit faire, c'est de produire des politiques qui ont des formes de rationalité autres.
Donc il faut faire des révolutions. Et là, l'Afrique s'en sortira.
Je suis revenu des révolutions. Elles sont importantes quand il y a des régimes qui étouffent les sociétés, qui les empêchent de s'épanouir, qui ne promeuvent pas l'état de droit, qui ne travaillent pas pour les libertés individuelles. Et les discussions que j'ai avec mes amis activistes du Burkina, du Sénégal, c'est de dire c'est très bien, les citoyens, c'est très bien, il y en a marre. Mais peut-être que l'une des limites, c'est de ne pas penser le projet politique. C'est une chose est de sortir Blaise Compaoré, une autre chose est d'avoir articulé un projet de société qui fait que la révolution n'est pas capturée par les forces qui sont politiquement organisées, les mieux organisées dans le moment. Et je pense que peut-être ce que l'on doit changer, c'est l'imaginaire du politique. C'est comment on produit un imaginaire du politique différent et un politique qui est fondamentalement au service des besoins de la cité et de la société. Et là, il y a un travail à faire.
Vous espérez un changement profond à quelle échéance ?
Je ne sais pas, mais je sais que ça va arriver. Je suis absolument convaincu que ça va arriver et que c'est une lame de fond. Et là, en fait, je prends l'économie. Les gens s'inquiètent du sous-développement supposé des économies africaines. Moi, je n'ai aucun doute dans le fait que, à l'horizon d'une génération, au plus tard, les Africains auront résolu leurs problèmes économiques. Ce n'est pas mon souci, sincèrement. Mon vrai souci, c'est comment vont-ils les résoudre ? Est-ce qu'ils vont les résoudre en impactant l'environnement de manière forte et désastreuse, en répliquant le modèle, ou est-ce qu'ils vont les résoudre de manière beaucoup plus éco-responsable ? Donc pour moi, la grande problématique, ce n'est pas de produire un nouveau modèle économique, c'est de produire un nouveau modèle de civilisation. C'est de produire une nouvelle articulation entre l'économique, l'écologique, le culturel, le symbolique, le politique, le spirituel. C'est de dire que la vie humaine, la vie sociale, il y a les conditions de l'existence qui sont les conditions environnementales, écologiques, et il y a l'existence elle-même, et que fondamentalement notre défi, ce n'est pas juste de produire une économie, c'est d'articuler en tout. C'est de produire un vivre ensemble dans lequel on investit de la qualité. Et comment on le fait ? Donc, on est obligé d'avoir une réflexion holistique. C'est pour moi, c'est de produire de nouvelles civilisations humaines et d'essayer de faire accéder l'humanité à un autre niveau. Pour moi, c'est ça le grand projet. Et dans ce projet, l'économie est un ordre qui doit être articulé avec les autres. Mais ce n'est pas lui qui doit diriger. Donc, du coup, si on pense l'économie et qu'on ne pense pas à son articulation avec le reste, qu'on ne pense pas à son articulation avec le politique, le social, l'écologique, c'est pour moi une réflexion qui est limitée. Et c'est ça la vraie question, c'est quel projet de civilisation ? Et à partir de ce projet de civilisation-là, quels sont les ordres techniques ? Comment les articuler pour atteindre ce projet de civilisation-là ?
Merci, Phil Winsart, d'être passé dans ces pas
vivants. C'est moi qui vous remercie.
Vous êtes artiste ou doctorant du continent africain ou de la diaspora. Sachez que les ateliers de la pensée de Dakar, initiés entre autres par Phil Winsart, viennent de créer une école doctorale. La première session prévue en janvier est déjà complète, mais il y en aura d'autres. Et le dernier livre de notre invité a pour titre « Habiter le monde » dans la collection Cadastre chez Mémoire d'Encrier. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.